France Culture.
Question du soir. Quentin l'a fait.
La semaine dernière, Elon Musk, chargé par Donald Trump de purger le gouvernement fédéral, a annoncé la fermeture de l'agence USAID qui gère l'aide internationale fournie par les États-Unis. Cette fermeture, annoncée vendredi dernier, pour l'instant suspendue par un juge fédéral du Massachusetts suite à une action en justice déposée par un syndicat de fonctionnaires. Si pour l'instant les fonctionnaires attendent la décision de justice, ce plan témoigne de la volonté d'Elon Musk de réduire les dépenses de l'État fédéral de manière brutale à la tête du DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Il s'apprête ainsi à démanteler les agences fédérales. Alors faut-il y voir une application de l'idéologie illibérale qui semble vouloir mettre en pratique Donald Trump dans ce nouveau mandat? Pour tenter de le comprendre, un invité ce soir, Raphaël Demias-Morisset. Bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes chercheur associé à l'Institut Montesquieu de l'Université de Bordeaux. Merci beaucoup d'être présent ce soir dans Question du soir. Et l'actualité, Raphaël Demias-Morisset, est évidente. Un juge a suspendu, on le disait, le plan de départ pour les fonctionnaires fédéraux qui avait été dessiné et décidé par Elon Musk lui-même. Qu'est-ce qui se joue, selon vous, dans cette bataille entre l'exécutif et le judiciaire ?
Alors, je pense que ce qui est très intéressant de montrer ou d'expliquer, c'est que cette bataille, elle a été anticipée à l'avance, en fait, dès 2021, lors de, on va dire, la participation de J.D. Vance à un podcast conservateur très très connu. Il expliquait justement qu'il fallait reprendre certaines théories développées par des intellectuels de l'alt-right, en l'occurrence Curtis Yarvin, quant à la nécessité de renvoyer en fait l'ensemble des employés fédéraux de l'administration américaine, et au moment où la branche judiciaire ou un juge interviendrait nécessairement, puisqu'il s'agit d'une décision qui est par définition en dehors du champ normalement de compétences de l'exécutif, au moment où le pouvoir judiciaire s'interposerait, ce sera à ce moment-là une occasion pour le pouvoir exécutif de justement mettre en jeu un affrontement direct entre la volonté du peuple et celle des juges.
Expliquez-nous ce que c'est que le cette fameuse administration à laquelle Elon Musk est désormais à la tête. Ce qui est étrange, c'est qu'on a le sentiment d'une administration totalement fantôme. Il n'y a pas de site internet pour tenter de comprendre ce qu'elle est. Jusqu'il y a peu encore, ses principales membres étaient totalement, leur identité était totalement inconnue. Alors qu'est-ce que c'est que le DOGE concrètement ?
Alors c'est assez difficile de comprendre véritablement ce qui se cache derrière le DOGE, puisque sa nature, elle a évolué entre l'annonce qui a été faite en novembre 2024, justement la création de ce service. Donc on comprenait au départ qu'il devait être une sorte de cabinet de conseil qui assisterait directement le président et le cabinet de Donald Trump dans une politique assez classique de droite de, on va dire, rationalisation et de, on va dire, coupure dans les dépenses de l'État. Et donc on a senti qu'il y a eu des tensions au sein de cette première mouture quant à l'orientation du DOGE, à savoir si jamais il devait devenir un service départemental ou est-ce qu'il devait rester extérieur à l'administration américaine. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si jamais le DOGE devenait un département au sens classique du terme, il devait être soumis à des contrôles de la part du Parlement, enfin en l'occurrence du Sénat et du Congrès, et ses membres devraient faire l'objet de déclarations d'intérêt et tout un tas de contrôles qu'il s'agissait précisément d'éviter pour éviter qu'il y ait des déclarations de conflit d'intérêt qui puissent porter préjudice à Elon Musk ou aux membres du DOGE. Et donc ce qu'on a appris un petit peu avec stupeur en début février, c'est que donc en fait grâce à un executive order, c'est-à-dire une sorte de décret présidentiel, Donald Trump a en fait rénové et modifié un service qui était déjà existant dans l'administration américaine mais qui avait un rôle assez mineur, qui était consacré à la modernisation en fait digitale des sites gouvernementaux, pour en faire le DOGE et pour esquivé pour justement pallier à ces problèmes liés au contrôle de l'activité du DOGE et de ses membres, il a donc choisi nommer des personnes à titre, on va dire, des conseillers qui travaillent bénévolement. C'est-à-dire que on a tout un tas de techniques juridiques qui ont été employées pour nommer de façon relativement floue et justement potentiellement illégale un collaborateur qui, on va dire, ont pour mission justement de rationaliser l'État.
Oui, parce que je reviens effectivement sur l'identité de celles et ceux, surtout ceux d'ailleurs qui composent ce DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. Jusqu'à il y a encore quelques semaines, l'identité de ces employés était inconnue et identité qui a été révélée par la presse. Alors qui sont-ils, ces entourages, son entourage à Elon Musk?
Alors c'est donc justement ce qui est intéressant de noter, c'est que alors Donald, dans le décret, l'executive order qui a été signé par Donald Trump, Elon Musk n'est mentionné nulle part, mais il a été présenté au départ comme étant le chef de ce département et il est justement très proche. On va dire que tous les membres qui sont aujourd'hui nommés au sein du DOGE sont en fait des personnes qui, donc en général des jeunes ingénieurs ou informaticiens, programmeurs de la Silicon Valley qui travaillent dans les entreprises, soit directement les entreprises d'Elon Musk, soit des entreprises de personnalités politiques et de chefs d'entreprise très proches de Elon Musk et de la droite trumpiste comme Peter Thiel.
Donc des personnes qui n'ont pas de compétences spécifiques en matière fédérale, qui n'ont pas d'expérience au sein de l'État, on est bien d'accord?
Oui, non, complètement. Alors, c'est vraiment des personnes qui sont à l'origine spécialisées, enfin, qui travaillent, qui sont ingénieurs ou programmeurs. Et c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est dans ce cadre qu'elles sont censées, elles sont supposées être recrutées, puisque l'objectif, normalement, de ce US Digital Service, c'est de moderniser, enfin, c'est de s'occuper, entre guillemets, la partie Internet, finalement, le visage, on va dire, digital du gouvernement américain. Et donc, c'est par cette faille, entre guillemets, que l'action du DOGE, elle est menée, puisque c'est par le biais, justement, de le service de paiement informatisé que ses membres ont pris le contrôle des administrations qu'on a évoquées.
Ils ont pris le contrôle de ces administrations, ils ont pris le contrôle, par ailleurs, d'une quantité considérable de données, tant et si bien qu'aujourd'hui, certains journalistes et certains experts parlent, par ailleurs, d'un quasi-piratage de l'administration américaine. Il faut nous expliquer de quoi il s'agit.
Alors en fait, je pense qu'il y a des détails qui mériteraient, je pense qu'ils nécessitent des connaissances spécialisées en informatique et sur l'administration américaine pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer. On va dire que aujourd'hui, la plupart des États fonctionnent avec des services digitalisés, informatisés concernant le budget de l'État et en particulier les paiements. Il y a des centres névralgiques au sein de l'État américain qui servent justement à gérer ces dépenses. Et c'est au sein de ces services névralgiques que les agents ou les employés du DOGE sont intervenus de façon justement assez, on va dire, violente, en renvoyant les personnes qui travaillaient jusqu'à présent dans ces services pour en prendre le contrôle, connecter leurs ordinateurs et avoir accès à toutes les données qui circulaient à travers ces centres de données, notamment un centre l'US Service Payment, qui sert à valider l'ensemble des paiements de l'État fédéral américain. Donc c'est véritablement le cœur du pouvoir américain qui est ici en jeu.
Ce qu'il faut préciser aussi, Raphaël Demias-Morisset, c'est que le corps social américain soutient assez largement Donald Trump et Elon Musk dans ce domaine précis de la réduction de l'État fédéral. Selon un sondage Ipsos Reuters, 61% des Américains approuvent le projet dans ce domaine. Là aussi, comment est-ce qu'on l'explique? C'est une perception absolument différente du rôle de l'État dans la société.
Alors, je pense que c'est une question... Alors peut-être un sondage qui nécessiterait d'être peut-être considéré avec plus de tact, puisqu'en fait il rejoint, il y a plein de choses différents sujets qui entrent en collision quand on parle de justement cette question, puisque l'entreprise qui est revendiquée par le DOGE à l'origine, c'est justement l'idée d'une rationalisation des dépenses et de mettre fin à la corruption, à un certain nombre de malversations qui seraient l'objet de tractations secrètes et illégales entre une partie de l'administration américaine et des élites, les élites médiatiques.
Dans un discours souvent complotiste, il faut le dire.
Complètement. Donc on a un discours complotiste qui est très prégnant au sein de la droite américaine, mais en fait pas seulement, sur justement la question de la corruption au sein de l'État américain et cette collusion d'intérêts qui expliquerait le déficit de l'État américain et puis surtout le trop-plein de dépenses. Et donc c'est forcément un discours qui est naturellement, on pourrait considérer qui est dans une rhétorique populiste et qui fait nécessairement, qui va être, va pouvoir susciter une adhésion assez logique dans la population. Mais à ce discours se superpose, un certain nombre de thèmes spécifiques à la droite radicale et au suprémacisme blanc qui voudraient que, justement, en fait, on dépense de l'argent pour des minorités ou pour des personnes qui, ne devraient pas bénéficier de ces aides parce qu'elles ne sont pas vraiment américaines, parce qu'elles n'ont pas la bonne couleur de peau, etc.
La voix de Marco Rubio, il s'exprimait sur CBS News. C'était le 3 février dernier.
Je suis le directeur par intérim de l'USAID. J'ai délégué cette autorité à quelqu'un, mais je reste en contact avec lui. Notre objectif était d'aligner notre aide étrangère sur les intérêts nationaux. L'USAID a toujours ignoré cela et a décidé qu'elle était en quelque sorte une organisation caritative mondiale distincte de l'intérêt national. Il s'agit de l'argent des contribuables, et je suis très troublé par ces rapports selon lesquels ils n'ont pas voulu coopérer avec des personnes qui posent des questions simples sur ce que fait ce programme, qui reçoit l'argent, qui sont nos contribuables, qui est financé. Ce niveau d'insubordination rend impossible de mener un examen sérieux.
Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, il s'est par ailleurs fait nommer directeur par intérim de l'USAID. Pourquoi se focaliser? Pourquoi Elon Musk en particulier s'est-il focalisé sur cette institution, sur cette agence, en priorité, comme un symbole?
Alors, je pense que c'est lié à justement la convergence de plusieurs marottes ou de plusieurs thèmes qui sont chers à la droite américaine de manière générale, et plus spécifiquement à, on va dire, une forme de droite libertarienne qui est, on va dire, très proche d'Elon Musk. Le focus, on va dire, sur l'USAID et donc également sur... on en parle, le département de l'éducation qui va prochainement être visé, et puis plus généralement le département du Trésor. Donc c'est l'idée qu'il y a des services publics qui sont assurés par l'État américain, qui sont non essentiels, voire même qui sont, on va dire, dont l'aide profite à des personnes, en l'occurrence, qui a une dimension raciale sous-jacente qui est très présente dans les discours et dans les, on va dire, chez les intellectuels proches d'Elon Musk. Donc l'idée que, en fait, c'est de l'argent qui est utilisé pour des populations défavorisées dans le monde, des pays du tiers-monde, etc., qui ne devraient pas pouvoir bénéficier de ces aides. Donc avec l'idée sous-jacente qu'il faudrait que l'État américain se concentre sur son propre pays, dans une perspective, on va dire, isolationniste. Ce qui fait que donc on a plusieurs thèmes, à la fois l'isolationnisme et la volonté de, on va dire, limiter, on va dire, l'activité de l'État américain à on va dire, le rediriger vers les intérêts des Américains, des citoyens américains uniquement. Ensuite, l'idée que il y a des, on va dire, groupes, on va dire, dans le monde, il y a des populations qui méritent pas du tout cette aide, en l'occurrence population des Sud de manière générale.
Tout ce que vous décrivez à ce micro, Raphaël Demias-Morisset, quel est le bon prisme intellectuel pour le comprendre? J'aimerais que l'on décortique justement les différentes approches qui sont souvent utilisées pour tenter de saisir la dynamique Trump-Musk. Vous avez utilisé un mot tout à l'heure, celui de libertarien. Est-ce que Elon Musk, dans son activité politique, dans sa vision aussi de la société, est fondamentalement libertarien selon vous?
Alors, je pense, c'est une question qui est forcément très débattue et qui, je pense, peut conduire à beaucoup de discussions sur ce qu'est le libertarianisme et ce qu'on entend par là, puisque c'est, on va dire, un courant intellectuel et une idéologie qui est traversée par beaucoup de conflits internes et qui a une forte évolution au cours du XXe siècle. Ce qui fait qu'on a en particulier deux factions qui s'opposent grosso modo au sein du libertarianisme. Une faction qui va se revendiquer de l'anarcho-capitalisme et qui est bon, classiquement représentée dans la culture américaine par des figures telles que Ayn Rand et par des romans, on va dire les romans qu'elle a écrites, et par certaines personnalités politiques.
Donc l'anarcho-capitalisme, c'est, si je caricature, l'absence totale cette fois-ci de l'État.
Et du coup, avec une idée, donc il faut justement complètement mettre fin à l'État. Il y a une idée aussi derrière de justement combattre aussi la religion, une volonté de permettre à n'importe quelle personne de pouvoir réaliser l'activité économique qu'elle désire, sans aucune contrainte, et également une volonté de supprimer toutes les formes de contraintes sur ce qui peut exister en termes... les exemples les plus caricaturaux, ça va être le travail des enfants, l'esclavage, c'est cette idée de revenir à une sorte de Far West.
Ça, c'est une première branche libertarienne.
C'est ça. Et donc, à côté de cette première branche libertarienne, qu'on peut caricaturer en présentant ces idées-là, il y a une autre branche qui va se revendiquer plutôt, qui va se dire paléo-libertarienne, qui est, elle, extrêmement conservatrice et qui idéalise, en fait, un retour à un État moyenâgeux ou, enfin, minimal, parfois un État monarchique, où, en fait, la promotion du capitalisme dérégulé va de pair avec la promotion de la morale et de la tradition étant considérée, en particulier la morale judéo-chrétienne, étant considérée comme étant la source, on va dire, ce qui permet à ce marché dérégulé de fonctionner sans basculer dans l'anarchie et l'immoralisme.
Et alors, est-ce que selon vous, Elon Musk est perché sur l'une de ces deux branches?
Alors, il emprunte, on va dire, bon, Elon Musk n'est pas un intellectuel qui a, on va dire, mobilise pas des références de manière très claire et évidente, et il emprunte justement à ses différents répertoires de manière assez variée et opportuniste, ce qui est, on va dire, je pense, ce qui pose problème à beaucoup de libertariens concernant Elon Musk, c'est qu'il est lui-même particulièrement dépendant des financements de l'État américain. En fait, il est dans une posture paradoxale, mais qui est très caractéristique, en fait, de la plupart des libertariens, qui est que, donc, on défend le marché dérégulé et l'idée que l'État serait quelque chose d'inutile et, on va dire, de fondamentalement nocif pour les droits individuels, mais en même temps, on défend un État qui favorise les entreprises nationales, qui soutient activement des politiques de l'offre, enfin qui soutient activement son propre capitalisme avec des politiques de l'offre. Et en fait, il y a cette idée que en fait, le rôle de l'État, c'est principalement d'être le défenseur d'entreprises comme celle d'Elon Musk.
Est-ce que la notion d'illibéralisme, vous allez d'ailleurs nous rappeler de quoi il s'agit, sa définition, est-ce que cette notion-là vous semble plus pertinente pour comprendre l'idéologie qui enserre, qui entoure Elon Musk ?
Alors, effectivement, je pense que c'est une question qui est débattue dans, on va dire, la littérature académique et plus largement dans le monde politique et médiatique, puisque c'est le terme d'illibéralisme, c'est un terme qui a une longue histoire et en fait qui fait l'objet de controverses depuis la Révolution française, où en fait déjà les adversaires de la Révolution française, donc les contre-révolutionnaires, débattaient entre eux sur l'intérêt d'employer le terme, soit de revendiquer l'illibéralisme et de considérer que la Révolution française était une révolution libérale, soit au contraire de se décrire comme étant des vrais libéraux et de considérer la Révolution française comme illibérale. Donc c'est un terme qui, dans le langage ordinaire, et en particulier dans le langage, on va dire, la vie politique ordinaire américaine, a souvent été employé à de nombreuses reprises, mais sans réelle prétention théorique. Et en fait, c'est un terme qui est devenu progressivement un concept dans les années 90, qui s'est progressivement enrichi et qui a, on va dire, été progressivement mobilisé dans la littérature pour chercher à rendre intelligible l'abandon, progressif mais explicite, de l'idée selon laquelle le capitalisme et la démocratie libérale seraient compatibles, qu'il faudrait défendre le capitalisme contre justement à la fois le libéralisme et la démocratie, mais également l'idée que l'état de droit, la démocratie libérale sont, on va dire, des idées, des concepts qui sont, on va dire, incompatibles avec la défense de la morale religieuse traditionnelle, qui sont à la fois des obstacles à la mise en place d'une véritable politique conservatrice qui menacerait les droits d'un certain nombre de minorités, également qui sont en fait une véritable, c'est le terme qui est souvent employé par des intellectuels libéraux, en fait qui serait une religion dissimulée qui serait caractérisée par son anticléricalisme et qui viserait à faire disparaître justement l'Église et toutes les formes de tradition, quelle qu'elle soit.
L'exemple paroxystique, si je puis dire, c'est l'exemple hongrois qu'on a beaucoup utilisé en Europe. On a beaucoup parlé de démocratie illibérale s'agissant du gouvernement de Viktor Orban. C'est aussi un processus très clair des élections démocratiques, un processus électif que l'on respecte. Mais une fois au pouvoir, on change les règles. Est-ce que là aussi, Elon Musk est dans cette dynamique-là et ce prisme illibéral est pertinent pour comprendre ce qu'il est en train de faire aujourd'hui?
Alors, la notion de démocratie illibérale, elle est, on va dire, elle a connu un succès assez important, justement, suite à sa revendication, par son appropriation par Viktor Orban dans plusieurs discours à partir des années 2011. Mais elle est en fait assez débattue, assez controversée, puisqu'elle induit justement un certain nombre d'idées contradictoires. Selon laquelle, donc, justement, la seule chose qui garantirait la légitimité démocratique d'un gouvernant, enfin d'un parti ou d'une personnalité politique, ce serait le fait qu'elle serait élue. Sauf que ça fait depuis un certain nombre d'années que, en sciences politiques, dans la littérature qui s'intéresse à la question des régimes politiques, on considère que l'élection à elle seule ne suffit pas à garantir le caractère démocratique d'un régime. Et c'est, on va dire, le respect du pluralisme idéologique, le respect du pluripartisme, un certain nombre, voilà, de liberté de la presse, etc., qui sont, elles, on va dire, respectueux, enfin qui garantissent la démocratie.
Et le respect, bien sûr, des contre-pouvoirs. Je voudrais vous faire entendre une voix, celle de Curtis Yarvin, qui raconte bien cette tension, comme vous venez de le décrire, cette tension entre le capitalisme et la démocratie. Vous nous direz juste après qui il est exactement.
I think that the problem is basically when people equate democracy with good government.
Le problème se pose lorsque les gens assimilent la démocratie au bon gouvernement. L'utilisation de ce mot est assez délicate. Je dirais que quelqu'un comme J.D. Vance, malgré la connaissance limitée que j'ai de lui, croit essentiellement au bien commun et que le gouvernement doit servir le bien commun. Je pense que les gens comme J.D. et ceux de la scène intellectuelle qui l'entoure et qui est très variée seraient tous d'accord sur ce principe. En ce qui concerne ce que vous entendez par démocratie dans ce contexte, je dirais que si la démocratie va à l'encontre du bien commun, elle est mauvaise. Si elle va avec, elle est bonne.
On va analyser, Raphaël Demias-Morisset, grâce à vous, ce discours stupéfiant, il faut le dire, mais avant cela, il faut nous expliquer, nous raconter même qui est son auteur, Curtis Yarvin, qui il est en quelques mots.
Alors, c'est une figure qui était auparavant, qui est principalement connue grâce à ses, enfin, à travers ses articles de blog qu'il publie, en fait, depuis le début des années 2000 à travers différents pseudonymes et récemment sous son vrai nom. Donc, c'est en fait un programmeur et un chef d'entreprise de la Silicon Valley qui est très proche de, on va dire, justement, chef d'entreprise milliardaire comme Peter Thiel, donc libertarien et très conservateur, qui s'est, donc, dans le cadre justement de ses blogs, progressivement devenue l'une des figures intellectuelles les plus importantes de l'alt-right, c'est-à-dire cette droite surtout présente sur Internet qui a diffusé, enfin qui a servi de relais aux thèses, à des thèses néo-fascistes, au suprémacisme blanc, à un certain nombre d'idées libertariennes également. Donc c'est une personnalité qui est très controversée puisqu'elle a eu des propos révisionnistes concernant le nazisme, qui a explicitement défendu des formes d'eugénisme racial et social en expliquant que donc en fait la population, on devait distinguer les personnes qui avaient un haut QI de celles qui n'en avaient pas, et que les personnes qui n'avaient pas un assez haut QI devaient justement, on devait trouver une forme de génocide humain pour les traiter et empêcher qu'elles ne, posent problème pour l'intérêt général.
Parle souvent, Donald Trump, de QI, oui. ça tombe bien, mais quelle est l'influence réelle de Curtis Yarvin auprès d'Elon Musk ou de Donald Trump? On a l'impression que chaque semaine, on sort un nouvel intellectuel du chapeau de l'alt-right américaine.
Alors, je pense justement, c'est ce qui est très difficile dans le cas de Curtis Yarvin, c'est en même temps de prendre au sérieux ce qu'il écrit et ce qu'il dit, puisqu'il s'exprime à travers un média qui est très particulier, donc des articles de blog qui donnent, et en plus il a beaucoup de références, qui appartiennent à la culture geek ou à la culture populaire. Donc il va se décrire lui-même comme une sorte de seigneur Sith en faisant référence à Star Wars. Il va faire des références également à plein d'univers comme ceux de Warhammer ou ceux de Tolkien. Ce qui fait que c'est difficile en même temps de prendre au sérieux ce qu'il dit. Dans le même temps, il reprend des thèses néo-fascistes, suprémacistes qui sont très bien identifiés et qui semblent avoir un impact, un effet assez important sur la droite américaine, puisqu'elles sont publiquement reprises par justement des personnalités comme J.D. Vance dans des podcasts. Et donc, et elles sont particulièrement influentes justement dans les milieux de la Silicon Valley où c'est difficile de savoir si jamais c'est lui qui est véritablement le moteur de ce qu'il nomme, enfin ce qu'on a appelé le Dark Enlightenment, c'est-à-dire les lumières obscures, ou si jamais c'est simplement, on va dire, qu'il n'est que la face émergée et l'illustration de ces dérives. Mais on va dire que ce qui est certain, et ce qu'on peut voir aujourd'hui avec l'exemple du Doge, c'est que l'idée selon laquelle la démocratie et le capitalisme seraient incompatibles et qu'il faudrait que un dirigeant gouverne un État à l'image d'un CEO, comme un CEO gouvernerait une entreprise, c'est-à-dire en licenciant tous les employés qui seraient, opposés aux volontés de leur PDG, en licenciant toutes les personnes qui sont considérées comme étant inaptes ou non efficaces. C'est le fait que cette idée elle soit directement mise en pratique aujourd'hui et qu'elle soit diffusée à grande échelle montre en tout cas la diffusion de ces thèses.
L'extrait qu'on a entendu tout à l'heure est un extrait de l'un des podcasts du New York Times, et cela a été énormément reproché à ce journal, le fait d'avoir donné une voix, plus encore qu'une voix, à cet homme-là, Curtis Yarvin. Comment est-ce que vous comprenez la polémique qui s'est nouée autour justement du New York Times à ce moment-là?
Alors je pense que c'est une politique qui est très représentative de une forme de faillite, ou de, on va dire, morale et intellectuelle, d'un certain nombre de on va dire, de journalistes et de contre-pouvoirs classiques dans la démocratie américaine, en l'occurrence le New York Times, qui consiste à penser que, alors ces personnalités comme Curtis Yarvin ont un discours qui est volontairement, on va dire, double, et elles jouent constamment sur l'ambiguïté entre leur avatar virtuel, leur personnalité virtuelle et les propos qu'elles peuvent tenir sur Internet, et ce qu'elles disent quand elles sont au micro de caméra ou quand elles sont invitées. Donc cette interview, elle a permis justement, encore une fois, à Curtis Yarvin de comparer Nelson Mandela, par exemple, à Anders Breivik, en expliquant que donc les deux étaient des terroristes et qu'on pouvait les mettre sur un pied d'égalité finalement, puisque c'était juste une question de point de vue, faire la différence entre les deux. Donc dérouler entre guillemets le tapis rouge à ces intellectuels là me semble être justement une façon particulièrement peu efficace de mettre en lumière ce qui est vraiment dit dans leurs écrits et ce qui se diffuse au sein de l'alt-right, et en même temps de comprendre quels sont leurs liens précis avec les membres de l'administration américaine, puisque on peut difficilement se fier aux seules déclarations de Curtis Yarvin pour comprendre quels sont ses véritables liens avec l'administration de Trump.
D'un mot, on peut vraiment parler d'intellectuel, selon vous? J'ai un doute.
Alors justement, ça dépend de ce qu'on entend par intellectuel. C'est assurément pas un intellectuel au sens classique du terme, même si jamais il aime à se penser comme un historien révolutionnaire par plein d'aspects et qu'il est justement persuadé de son propre génie. Mais c'est effectivement, on peut pas considérer que ces articles de blog aient une quelconque densité intellectuelle ou qu'ils soient satisfaisants sur le plan historique ou même théorique.
Merci beaucoup, Raphaël Demias Morisset, de cette discussion, de ces explications aussi. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques et chercheur associé à l'Institut Montesquieu de l'Université de Bordeaux. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.